hors champ. Orchamps, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Serge Merlin. L'enfance, vous en souvenez ?
Oui, un cristal de larmes.
Pourquoi c'était si douloureux ?
Je ne sais pas, je suis mal né.
Vous n'étiez pas attendu, vous avez l'impression ?
Oh non, ça, je n'étais pas attendu, je n'étais pas souhaité. Sans doute, la volonté était plutôt de me détruire avant que je ne sois là. C'est certain même, je le sais.
Vous le savez comment ?
Je le sais, par des personnes qui étaient là, qui étaient concernées par ma venue.
Si je vous dis Colombéchard, ça vous dit quoi ?
Ah oui, Colombéchard, c'est un endroit où j'ai vécu. Une solitude atroce. Sauf les roses de sable que je découvrais dans le désert et qui... J'avais l'intuition de leur place. Je savais les trouver. Je sentais leur chaleur et j'allais vers elles comme si c'était vraiment des roses. Et ce que j'ai éprouvé plus tard pour quand j'ai vu des roses ou des beautés, de la beauté.
Et vous vous souvenez de paysages ?
Oh, c'est très laid le désert. C'est très laid. C'est des cailloux, des choses comme ça. De temps en temps, il y a une dune qui fait plaisir, parce que ça a une ligne imparable, enfin, vraiment. Et puis la lumière, surtout, tout autour de ça. Puis ces palmiers invraisemblables, tout à coup, cette brusque nature comme ça qui est tellement violente là au milieu de cette finesse du sable, de cette poudre de riz, de ce rêve, mais un rêve atroce, hein, très douloureux, avec une chaleur épouvantable. Tout est hostile, tout est terrible, tout est affreux, sauf les nuits et les étoiles, mais ça, c'est pour le souvenir. Quand on a ça au-dessus, on a tous les inconvénients de ces choses. Enfin, c'est en même temps, dans le souvenir, c'est astral, quoi, c'est arrivé, c'est un songe, c'est une songerie, c'est fait pour ces récits-là de gens qui traversent le désert, qui voient, qui sont inspirés par ça. Sinon, c'est fait pour le père de Foucault, c'est-à-dire des scorpions, des vipères à cornes et des choses comme ça. Enfin, le démon partout, quoi.
Alors que tant de gens voudraient y aller passer des vacances, soi-disant pour méditer, regarder le ciel. Vous, Serge Marlin, vous avez eu hâte d'en partir.
Oh oui, partir de là, mais c'est pas des endroits où à être. Il faut être à Paris, pas là-bas. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur pure. Et puis maintenant, ça sent le pétrole en plus.
Pourquoi êtes-vous parti ?
Je suis parti parce que je voulais trouver quelque chose au monde que je n'ai peut-être pas trouvé, mais j'ai fait la démarche au moins. Et qui n'était pas là-bas. J'aurais pas l'idée d'y retourner jamais.
Vous n'avez pas envie d'être enterré là-bas ?
Ah non. D'abord, j'ai pas envie d'être enterré du tout. Que vous êtes amusante, Laure.
On dit qu'on revient toujours sur ses propres origines. Vous, non, c'est coupé à tout jamais.
Bon, l'origine. Oh, quelle horreur, l'origine. Mais pourquoi riez-vous comme ça? Oui, je suis quelqu'un d'amusant, au fond.
Pourquoi vous appelez Merlin ? Parce que c'est pas votre nom ?
Non, je m'appelle Merle, comme l'oiseau.
Mais justement, pourquoi avoir abandonné l'oiseau ?
Mais parce que...
Abandonné le désert pour choisir l'enchanteur, alors ?
Ah non, je savais pas. Je savais pas, ça, cette histoire d'enchanteur. Je connaissais pas. On m'a dit, comme ça, tu ne peux pas t'appeler Merle, parce que sinon on peut pas signer ton contrat. Et alors j'ai dit Merle, et puis j'ai... Merlin, j'ai dit. Et voilà. Et il m'est arrivé ce malheur d'être sous la coupe de Merlin maintenant, c'est-à-dire un enchanteur. Et alors, il m'a joué de drôles de tours.
Lesquels ?
Eh bien, d'abord, il m'a donné une fée Viviane. Et Viviane, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui vous enferme dans son cercle de magie, d'amour. Et je l'ai rencontrée, et c'est ma femme. Elle venait de Madagascar, de l'île aux oiseaux, et moi je venais de Colombéchard. Et on s'est rencontrés il y a 50 ans, et on est toujours là.
Et quand vous êtes arrivé à Paris, vous connaissiez personne ?
Personne. Et je ne voulais connaître surtout personne. Et surtout pas des gens importants.
Alors comment vous viviez ? Vous observiez les gens dans la rue ? Vous les suiviez quand...
Mais non, j'avais besoin de me nourrir, de manger, je suis très fragile, alors j'avais besoin de me coucher dans une couche agréable. J'étais très fragile. Et j'avais besoin de beaucoup de choses. Je n'ai rien eu d'ailleurs, mais enfin...
Comment êtes-vous entré dans le monde des illusions du théâtre ?
Naturellement, de la façon la plus naturelle.
Oh, ça, c'est ce qu'on raconte toujours dans les livres de légende, non ?
Ah oui ? Ah, mais moi, je suis une légende. Non, mais je veux dire, je suis...
J'ai eu la chance de rencontrer une légende vivante.
Entre moi et moi-même, je suis légendaire, quoi. c'est drôlatique, mais...
Mais c'est vrai.
Mais oui, ça a quelque chose, hélas, de bâti comme ça.
Est-ce vrai que vous avez rencontré Beckett dans la rue et que vous l'avez suivi ?
Ah non. Non, c'est un homme que j'ai suivi, oui. C'est un homme que j'ai suivi quand je le connaissais, d'ailleurs. Je l'ai suivi au moment de sa mort.
Enfin, avant.
Oui. Peut-être je le suis toujours, d'ailleurs. Je l'ai suivi parce qu'il risquait de tomber. Il m'avait raconté cette histoire où il était tombé au parc Montsouris avec une canne. Et ça m'avait beaucoup affecté, ce qu'il m'avait raconté là. Le petit pont, tout ça, enfin bon... Et après, je crois qu'il était un peu... Il devait boire pas mal. Et il était vacillant. Alors, je le suivais de pas trop près. Et je voulais l'aider s'il avait chuté ou s'il avait été dans l'ennui. Voilà. Mais je ne le voyais pas toujours. Hein,
Et vous saviez qu'un jour, vous alliez interpréter certains de ses écrits, quand vous le suiviez, Serge Marin?
Ah non.
D'abord, il y a eu...
Les écrits, ah oui. Ah oui, il y a eu d'abord l'écriture.
Alors, comment les livres sont arrivés dans votre vie? Parce qu'à Colombéchard, vous aviez la possibilité d'ouvrir des livres, ou est-ce que c'est à Paris que tout a commencé?
Ah non, à Colombéchard, j'ai beaucoup lu. J'avais des pères blancs qui me lisaient dans le texte. J'ai été élevé comme quelqu'un un prince de Bavière.
C'est-à-dire?
Eh bien, on me faisait la lecture, on me traduisait les choses, l'arabe, le latin, et tout ça, et je m'apercevais pas de mon élection. J'étais vraiment choisi. J'étais entouré. Et j'allais tout de même des frontières de la Mauritanie à celle de la Libye.
Mais vous étiez un prince, alors?
Non, j'étais pas sur un éléphant ni un chameau transporté comme un... Non, j'étais un enfant tiré par des pères qui allaient d'un côté à l'autre. Et puis voilà, c'était une vie très rude et normale, quoi.
Et les pères n'ont pas voulu vous faire rentrer dans les ordres?
Bien sûr, et ils ont eu bien raison. Mais je n'étais pas en capacité à la hauteur de la liturgie. Je ne pouvais pas accéder à ce domaine. C'était trop élevé pour moi.
Et comment le monde du théâtre s'est-il ouvert à vous? Est-ce que c'était un choix à partir de la lecture de certains textes dans l'enfance, ou est-ce que ça a été une série de rencontres dans le Paris bohème des années 50?
Pas du tout, ça a été là-bas quand la loi Falloux, je crois, m'a obligé à aller à l'école comme tout le monde. Et alors je suis allé avec les autres bambins, je suis allé là-dedans, j'étais au fond de la classe, j'étais considéré comme ce que j'étais, un idiot, comme ça, j'étais au fond de la classe, enfin je m'arrangeais à l'être le plus possible aussi. Enfin, quoique je calculais pas trop, mais il fallait que je sois en dehors de ce coup-là, les enfants. C'était trop important pour moi, les enfants. Et j'étais donc au fond de la classe, et puis un jour, ils ont dit qu'il fallait apprendre un texte. Et alors, moi, j'apprenais rien, jamais, je ne répondais à rien. Et là, j'ai appris Athalie, le songe d'Athalie. Et on s'attendait pas à ce que je récite à le songe d'Athalie. On s'attendait à rien de moi, on me demandait rien. J'étais comme ça, en trop, dans la classe. Et je me suis levé et je suis rentré en flamme avec ça, avec un texte. Avec, pas un texte, ça quoi, cette matière. Et je suis tombé raide mort à la fin. Je crois que je le sais toujours. Et les chiens dévorant tout ça. Et alors j'étais vraiment dévoré, quoi. Et après j'ai compris qu'il y a des gens qui faisaient ça sur un plateau et tout ça et tout ça. Alors à Paris, j'ai vu un jour un monsieur qui donnait des cours. Qui faisait ça sur un plateau. Alors je suis monté sur ce plateau et j'ai donné d'ailleurs 3 monologues.
Et alors, vous avez été reçu? Vous qui n'avez jamais passé d'examen, vous avez été reçu tout de suite?
Ah ben j'ai pas voulu. J'ai pas voulu être dans une école, dans ça encore. Ah jamais. Non, non. Au théâtre, on ne pouvait pas me juger. On ne pouvait pas me dire si j'étais bien ou mauvais.
Ça ne veut peut-être rien dire. De toute façon, avec vous, ça ne veut rien dire.
Non, mais c'était pas ça. Je ne comprenais pas que je sois bon, mauvais ou... ou je ne sais pas trop quelle chose comme ça, où j'étais là ou j'étais pas là.
Vous êtes vous ?
Non, pas tellement ça, non. Moi, j'ai pas grande affaire avec moi. Moi et moi-même, ça ne va pas, quoi. Mais moi et la chose, pas moi, mais... La chose est la chose qui est en moi est la chose qui est là. Alors là, il peut y avoir une coïncidence tragique qui m'étrangle et me fasse parler, quoi, me donne la parole. Enfin, j'ai pas le droit de parler, mais la mienne, quoi, que celle que je suis obligé de prononcer, quoi.
Quelque chose parle en vous.
Voilà, une chose
qui
comme
ça. Qui n'est
pas
vous, mais une part
voilà.
De vous.
Voilà, quelque chose parle et je n'ai qu'à ouvrir la bouche, quoi. Comme... non, pas comme ça, mais presque ça. Il faut beaucoup travailler hein, pour arriver à ça. Il faut quand même beaucoup travailler. Oui. Il faut quand même s'y intéresser pas mal, oui. Vraiment, vraiment.
Alors, ça fait des décennies que je peux vous voir, comme beaucoup d'autres personnes, sur les plateaux de théâtre. Et effectivement, ce qui est très impressionnant, Serge Merlin, avec vous, c'est que, avec vous, on oublie la notion même de comédien. Est-ce que vous acceptez ce mot de comédien ou même plus du tout, tellement vous transgressez les règles ?
Je ne sais pas trop, moi, je n'ai pas accepté ou refusé. On parle partout.
Ah ben, vous acceptez pas tout, quand même.
J'accepte. Pas grand chose. Mais c'est parce que j'y suis obligé. Par quelque chose qui fait que c'est seulement ça qui peut être là. C'est pas d'autres arrangements. Je sais pas, moi, je...
Alors, c'est quoi cette chose ?
Ben, la chose, c'est une chose irrémédiable. C'est qui se produit quand elle est convenable aux autres, qu'ils acceptent de la partager, qu'elle ne fait pas problème et se donne au cœur de l'autre sans lui réclamer même son cœur. Quand elle est bonne à être en partage, en acceptable, enfin préférable même parfois, douce et violente à consommer comme un cœur qui brûle, une intelligence peut-être, une perception, une connaissance, un sens de la direction vers la beauté, la gentillesse d'être au monde, de pas trop souffrir, d'être en partage de son humanité, de ce qui nous a été à chacun donné, comme ça, et sans trop réclamer de choses, surtout, parce que ça fait trop violence.
Au départ, c'est un texte.
Ah oui, toujours le masque. Enfin, le masque de la révélation, le seul masque qui révèle, le seul masque qui dise quelque chose et qui prononce, mais avec lequel les masques successifs se succèdent l'un à l'autre et arrivent à un possible endroit de vie, pas de la vérité, mais de l'intuition d'un passage, d'un que quelque chose veut dire quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui veut dire quelque chose et qui nous rassemble, comme ça, par une minuscule vertu qui brûle comme une, comme une bougie à très haute flamme, nourrie d'une cire d'abeille la plus rare, et qui ne fait pas de fumée au plafond. Voilà, mais c'est une tentation de l'impossible, comprenez-vous. C'est quelque chose qui... C'est une tentation où il n'y a pas de but, parce qu'il n'y a pas d'existence à ça. Rien n'indique que cette chose existe. Cette foi est absurde. C'est une perte totale de tout, du temps, de... C'est une tentation. Voilà, mais une tentation déplorable, quoi. Parce que toujours perdu, toujours à recommencer, et qui ne se conquiert pas.
Parmi les îles dans lesquelles vous vous réfugiez, Serge Merlin, depuis bien longtemps pour continuer à vivre, il y a l'île Thomas Bernard. Est-ce qu'il faut comprendre la totalité de l'œuvre pour pouvoir forer, et j'emploie à dessein ce terme de forage, certains textes que vous nous restituez sur les plateaux de théâtre, ou est-ce que c'est un travail de sédimentation très lente, très progressive pour vous ?
Pour moi, il s'est trouvé que non, mais comme qui dirait par une erreur. C'est-à-dire que cette volonté d'écriture, parce qu'il y en a une derrière tout ça, de Thomas Bernard au répétitif, à la construction, à la criminalité aussi de son stylo et de son style et même de sa stylistique. Il y a là quelque chose qui appartenait à mes nerfs, à ma maladie. Et j'ai pu entrer là peut-être plus facilement que quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais su cette chose-là parce que je connais pas de personne qui aborde ces choses-là. Et c'est vrai que cet homme-là, ce poète-là, ce génie, il me fait un effet de... Oh, c'est somptueux, c'est de la soie, c'est de l'intelligence, de l'esprit, et puis tout ça écrit avec un matériau souvent terrible et sale et monstrueux de matière, enfin. Et il arrive avec ça à une transparence de la vie. Pardon, vous avez quelque chose ?
Non, je me demandais comment était faite votre mémoire. Je me disais, puisque vous vous souvenez du songe d'Athalie, est-ce que vous vous souvenez de tous les textes que vous avez interprétés ? Comment est organisée votre mémoire, Serge Merlin ?
Voilà, je vais vous dire, depuis 25 ans, Laure, à 30 ans, je n'ai pas de mémoire, dans le sens que je n'apprends jamais mes textes. Je fais une chose, j'introduis dans mon oreille ce que j'appelle une tétine. Alors, une tétine, c'est sans doute à cause de la tétée, de la petite création qui vient au monde avec des mains palmées comme ça pour prendre le gros sein de sa mère. Et j'entends une voix, qui est la voix de quelqu'un d'autre, évidemment, d'un être humain, qui s'immisce en moi, comme si c'était la tombe de Thomas Bernard ou de Shakespeare, et qui me dit tout le texte, de telle sorte qu'aucun metteur en scène, par exemple, ne peut me coincer sur quoi que ce soit, parce que c'est là où je suis coincé la plupart du temps. C'est-à-dire que quand je suis sur un plateau et que je n'ai pas de texte, à ce moment-là, on peut faire de moi tout ce qu'on veut. C'est-à-dire me martyriser surtout. quand je n'ai pas de texte, je suis un être vide et qui hurle de désir d'avoir quelque chose à prononcer et à vivre. Et quand je suis sur un plateau de théâtre et que quelqu'un me réclame quelque chose, à ce moment-là, je suis ébobi d'épouvante. Et il me faut cet aliment, ce lait, cette tétine à la lettre pour résister à quoi que ce soit qui arrive en face, c'est-à-dire, pas le metteur en scène, mais la création. Alors à ce moment-là, quand je suis alimenté, quand j'ai mon aliment naturel, mon sang, je peux commencer à ne pas ignorer que je marche sur des planches qui résistent à mon poids. Et j'essaye d'être de plus en plus amène, délicat, en rapport avec cette chose qu'est le texte. À la lettre, je le connais entièrement et il me le faut toujours.
C'est une addiction alors ?
Je ne sais pas ce que c'est. C'est ainsi que c'est fait. Je l'ai fait au moment de l'invention de cette machine, ça s'appelle Schanheiser, je crois. Et cette machine m'a donné la possibilité de parler.
Oui, mais là, c'est encore autre chose. Vous avez inventé quelque chose, Serge Merlin, parce qu'avant, il y avait les souffleurs. Ce n'est pas du tout d'un souffleur dont vous avez besoin.
Non, c'est le souffle.
C'est d'une alimentation que vous avez déjà à l'intérieur de vous.
Voilà.
Alors, pourquoi en avez-vous besoin ? Si, par exemple, là, vous êtes arrivé sans rien, rien dans les poches, rien dans les mains, si je vous demande... comme ça, un petit bout du réformateur, vous l'avez dans la tête, et pourtant vous n'avez pas votre tétine dans l'oreille.
Non.
Non, il vous faut la tétine.
Non, il me faut tout, c'est plus agréable. C'est plus agréable d'avoir une femme à téter que de n'avoir qu'un...
Oui, parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs, je ne crois pas rompre un secret, c'est que c'est votre fée Viviane qui vous donne la tétée dans l'oreille.
Oui.
Donc elle n'est pas là, vous êtes venu tout seul, elle n'est pas là.
Oui.
Mais ça veut dire, vous êtes où dans ce texte qui vous arrive corporellement par l'oreille ?
Je suis partout. Je suis partout, c'est-à-dire, je ne suis nulle part. J'invente un texte qui n'existe pas, j'invente une personne qui n'est pas là, je m'invente moi n'étant pas très important au milieu de cet engin qui trafique de tous les côtés ma soi-disant personne. Je suis manœuvré par quelque chose que j'ai inventé.
Mais vous dites le texte juste après l'avoir reçu dans l'oreille ?
Ah, je ne sais pas où ça se trouve. Ça se peut se trouver bien avant, bien après. La personne continue. Elle n'a aucune importance plus grande que moi-même.
Donc vous le connaissez par cœur, ce texte ?
Mais complètement. Ça ne compte pas par cœur. C'est le cœur qui parle sans par cœur.
En direct avec le texte, mais finalement loin des spectateurs, parce que tellement dans le texte.
Oui, complètement.
C'est peut-être ça qui nous éblouit quand on vous voit. C'est que vous êtes là et pas là. Parce que vous êtes avec et dans le texte. Vous vous fichez de notre existence. Vous êtes là pour vous.
Non. Ah non. Ça, je serai jamais là pour moi. Ah, ça pour moi, alors c'est pas là que je viendrai, alors là. Oh mais non, alors là. Oh, le théâtre, mais quelle horreur. Ah, non.
Mais vous êtes bien sur le plateau, physiquement.
Oui.
C'est bien vous.
Ah oui, oui, je peux pas disparaître à moi-même. Je suis simplement un bonhomme qui est là, un monsieur qui a tout calculé de son parcours, oui.
Et vous êtes là à plusieurs Serge Merlin ou vous êtes là tout seul ? Parce que, pour reprendre l'exemple du réformateur, que vous aviez déjà interprété il y a, je crois, une bonne trentaine d'années,
oui,
et que vous avez repris, est-ce qu'il y avait des multiplicités de fantômes qui habitaient votre interprétation et votre compréhension du texte, ou est-ce que c'était un nouveau Serge Merlin qui a repris le texte du réformateur ?
J'ai complètement, sans doute, tout transformé dans le sens que j'ai fait la même chose, et que du pareil au même, l'éternel retour du même pour Nietzsche, c'est bien ce qui se passe. À savoir... c'est le même, et le même est autre chose, simplement. C'est un mystère comme ça de la vie, de la philosophie, de la pensée, de l'existence même, c'est-à-dire que le même est un autre retour de quelque chose qui fut, qui a été, qui sera, c'est un mystère du temps.
Vous avez connu le même genre d'expérience avec le roi Lear.
Oui,
c'est extraordinaire dans votre histoire.
Ah oui, oui,
c'était... On vient vous chercher comme si vous étiez la réincarnation d'un fantôme ancien qui est encore vivant.
Mais oui, mais ça existe, le fantôme. Ça existe complètement, ça existe. Ça existe pas comme ça, le fantôme avec des ailes et des machins. Non, enfin, quoi que ce soit très beau et que ça puisse recouvrir tout ça encore avec une plus grande finesse. Mais le fantôme... Par exemple, dans Le Roi Lear, je me suis surpris à hurler, à être vraiment hors de moi-même quand je rencontrais mes filles à la fin et que la terreur que me produisait, et je n'ai eu ce mystère de chant, de cri, que les 5 dernières représentations. Et dans Le Réformateur, oui, cette dernière pièce-là, j'ai eu une chose très curieuse qui s'est passée, c'est-à-dire que, à la fin de l'œuvre, l'œuvre est concassée par Thomas Bernhard de façon singulière. Il y a des choses apparitionnelles, comme ça, brusques. Le personnage est en miroir de lui-même continuellement. Enfin, et là, je me suis aperçu, par exemple, qu'il disait « j'étouffe ». Et je me suis mis sur le plateau à étouffer. Et je n'ai pas pu jouer la fin de la pièce de la même manière, parce que, étouffant, j'étais Thomas Bernhard, qui est mort en s'étouffant. Il a étouffé jusqu'au bout. Et je me suis étouffé comme il s'est étouffé, c'est-à-dire qu'à la fin, je ne disais plus le texte, j'étais plus qu'une respiration, une palpitation de souffle. C'est très curieux, une chose comme ça, une intuition qui vous arrive par un mot et par le fait que une chose... Et j'ai changé complètement la fin de l'œuvre.
Mais Molière est mort sur scène.
Oui. Oui.
On a l'impression que vous prenez des risques souvent.
Moi, je suis pas de cette altitude-là. Je suis comme un enfant idiot. C'est-à-dire, j'ignore... le risque, voilà. J'ignore le risque. Si je le prends, je ne le sais pas. Voilà, on ne me fera pas payer cette loi parce que je ne donne pas jusque-là. Je l'ignore comme quelqu'un d'ignorant. Alors, c'est dans la balance, mais c'est dans la balance de la vie coutumière, habituelle, avec évidemment le sens de ça, peut-être, le doute, l'approche du toucher vraiment sensible, qui peut-être n'ignore rien. Mais se déguise en menteur de tout ça. Voilà.
Vous avez beaucoup de compañeros et de compañeras dans le monde du théâtre. Vous avez été choisi par les plus grands metteurs en scène pour interpréter des rôles très différents, dans des registres très différents. Parmi vos compañeras, je crois qu'il y a quelqu'un qui est très important pour vous. Vous avez vécu une expérience extraordinaire avec elle, je crois. C'est Maria Cazares. Nous allons l'écouter dans une archive où elle parle à Jean Cocteau dans son film Le Testament d'Orphée, la voix de Maria Cazares.
C'est quand même une étrange chose que le théâtre, vous savez. Pour tous, d'ailleurs. Cette chose, rien que l'idée de cet outil personnel qui est soi-même, qu'il faut avoir prêt à une certaine heure, qui doit être comme ça en marche de telle heure à telle heure.
Ça suppose un entretien, ça.
Ça suppose un entretien, mais oui, mais un entretien qu'on ne peut pas toujours entretenir. Vous voyez dans l'alternance. Vous restez 3 jours sans jouer, puis vous jouez le 4e. Quand on ne joue pas, tout d'un coup, l'instrument n'est pas prêt. Et vous ne pouvez pas tout de même jouer la pièce tout seul, tous les autres jours à la même heure, non? C'est quand même une chose assez mystérieuse, et assez bête et mystérieuse, quoi. Et puis, maintenant, il y a eu, je crois, une époque dont on parle beaucoup, à chaque fois on dit, bon, mais quand il y a des grands rôles, quand il y a des choses comme ça, les gens avant le jouaient 3 fois, 4 fois, ils se préparaient. Mais ils se préparaient comme des officiants. Maintenant, on joue comme si on allait dans un grand magasin. La vie leur est difficile, vous comprenez, c'est pas possible de passer d'une synchro à une télévision, ensuite à la radio, et puis le joueur jouait des, je ne sais pas, un grand rôle du répertoire, et puis le lendemain recommencer. C'est un autre point de vue. Hein.
Et vous, quelle idée vous faites-vous de vous chaque soir, puisque vous allez chaque soir au théâtre, quand vous vous dirigez vers votre théâtre?
Oh, cela dépend des soirs. Cela dépend des soirs, il y a des soirs. D'ailleurs, c'est le moment où je ne me fais aucune idée. Sauf quand je répète. Où j'oublie toutes mes idées, je m'oublie, et puis je parle toute seule dans la rue en cherchant un personnage. Je me trompe un peu un geste. Bon.
C'est les moments de votre vie, d'ailleurs, pendant lesquels vous êtes inabordable.
Exactement. C'est le seul moment qui est passionnant. Pourquoi le perdre?
Quel conseil donneriez-vous à une actrice débutante?
Oh, les conseils! Il faudrait d'abord que je me les donne. Une actrice débutante, aucun, vie. Ne pas réfléchir en dehors, ne sais pas, se coller.
À quoi?
À la vie, au monde. Au monde donné, par l'œuvre. Conserver la vitalité, conserver l'allégresse.
Nous venons d'entendre la voix de Maria Cazares, et je crois que vous avez vécu une expérience inoubliable avec elle en 1983, notamment quand vous avez été engagé par Patrice Chéreau pour jouer dans les paravents de Jean Genet,
oui.
Serge Merlin.
Ah oui. Ah oui, c'était... J'avais peu de choses, Je partageais avec elle peut-être, je sais pas, 1 heure de texte, même pas peut-être. Enfin, c'est beaucoup parce que dans les paravents, mais j'avais 2 monologues intriqués l'un dans l'autre entre Maria et moi. Et alors, j'étais la bouche de la mort. Et elle était la mère qui donne la vie, quoi. Et alors, je parlais sa voix. J'étais sa voix. J'étais la bouche qui parle la mort, qui dit les choses de l'au-delà. Et alors, c'était fantastique. J'avais un jeune homme qui était, comment il s'appelait ce garçon? C'était l'assistant de Patrice Chéreau, qui était un metteur en scène suisse, je crois, et qui était au fond d'une trappe. Et Maria devait lui jeter dessus une
Pierre Roman.
Un coup.
Pierre Roman.
Non, non.
Luc Bondy.
Non, un autre. Voilà. Je sais pas. Et alors? Un metteur en scène suisse connu. Et alors, elle devait lui jeter un sac de sable sur la tête. Et donc, il devait pas être là. Et il était là pour me souffler. Alors, la situation était impossible. Maria pouvait pas jeter sa terre. Moi, je ne pouvais pas admettre qu'il n'y ait personne pour le cas où j'aurais perdu la tête. Enfin, c'était une situation terrible. Et Chéreau a imposé qu'il y ait quelqu'un en dessous, malgré tout. Alors, moi, j'avais mon souffleur. Maria, elle n'avait pas son couffin, et ni sa terre, elle ne pouvait rien faire. Et le pauvre garçon en dessous était obligé de me souffler. Et moi, je bramais mon texte, la mort. Et voilà comment ça se passait. Et alors, Maria était souveraine, là, au milieu, nous engendrions tous les deux, comme ça, la mort et la vie. Enfin, c'était quelque chose, c'était un rêve, quoi. C'était un rêve. J'ai accompli là un moment d'existence, enfin, qui physiquement a été comme une chose insolide. Un bloc d'or.
Et vous n'avez jamais eu envie d'être metteur en scène?
Jamais.
Et vous vous définissez comme comédien?
Je ne sais pas, ça que nous nous sommes racontés, là, alors, je sais pas, enfin, ce truc-là, quoi, que je monte sur un plateau et que on me donne un texte et que je le malaxe de cette manière-là.
Et que faites-vous, alors, quand il n'y a pas de texte à incorporer?
Mais il y a toujours un texte, sinon je suis pas là.
Mais entre les moments où vous êtes appelé par le théâtre, que faites-vous de votre vie?
Ah, alors là, c'est atroce.
Bah, c'est atroce. Vous avez des oiseaux toujours, non?
Ah, j'ai des oiseaux, 9 chiens, 3 chats, des choses qui sautent, là.
Enfin, des j'avais hamsters, beaucoup... des écureuils.
Voilà, des écureuils, tout ça, dans un tout petit appartement. Alors voilà, j'ai eu tout ça, parce que ça meurt très vite, les animaux. Ça meurt très, très vite. Ça vit beaucoup moins que nous. Alors ils s'en vont, comme ça, vous voyez tout le monde disparaître. Et comme tout le monde a vécu ensemble, vous ne savez plus rien. Les gens sont raisonnables, au moins ils ont un animal. Donc ils lui donnent... une vie humaine, pratiquement, et il l'aime de cette façon-là. Mais quand...
Mais pas vous, vous êtes resté le prince de Bavière de Colombéchard.
Et il y a ma femme qui est piquée, elle aussi, hein, qui est malade des animaux. Elle, alors, elle se donne entièrement. Et parce que c'est elle qui les entretient, en plus. Moi, je les aime, mais je ne fais rien. Je fais du théâtre. elle fait tout.
Donc le théâtre, c'est rien.
Ah, le théâtre, c'est ma vie. C'est rien. C'est comme la vie. C'est rien, c'est mon naturel.
Alors, il faudra attendre combien de temps pour vous revoir sur un plateau de théâtre, Serge Merlin?
Je crois qu'il y a une chose qui va se décider là, maintenant. Voilà.
Vous êtes superstitieux, donc vous ne pouvez pas en dire plus. Mais on vous attendra et on viendra vous voir. Merci beaucoup.
Merci, Laure.
Merci à vous, Serge Merlin, et merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Jean-Richard Dufour, Anne Kobilac, Corinne Amard, Élodie Royer, Julien Rosa. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.